Je débitais un à un le chapelet de pseudonymes sonores et grandiloquents, chargé d'exprimer tout ce que je ressentais, tout ce que je voulais lui offrir. Elle écoutait avec une attention un peu anxieuse, et je sentais bien qu'aucun de ces noms ne lui suffisait, qu'aucun n'était assez beau pour moi. Peut-être cherchait-elle simplement à me donner courage et confiance dans mon destin. Sans doute savait-elle combien je souffrais d'être encore un enfant, de ne rien pouvoir pour elle. Et peut-être avait-elle surpris mon regard anxieux, alors que de notre balcon je la voyais s'éloigner chaque matin dans l'avenue Shakespeare, avec sa canne, sa cigarette et la petite valise pleine de bijoux de famille. Et que nous demandions tous les deux si la broche, la montre ou la tabatière en or allaient trouver cette fois un acquéreur. Roland Campéador, Alain Brizard, Hubert de Lompré, Romain Cortès. Je voyais bien à ses yeux que ce n'était pas encore cela, et j'en venais à me demander sérieusement si j'arriverais jamais à lui donner satisfaction. Bien plus tard, lorsque pour la première fois j'entendis à la radio le nom du général de Gaulle, au moment de son fameux appel, ma première réaction fut un mouvement de colère, parce que je n'avais pas songé à inventer ce beau nom 15 ans plus tôt. Charles de Gaulle, cela aurait sûrement plu à ma mère, si je l'avais écrit avec un seul L. La vie est pavée d'occasions perdues. Chapitre 4. La tendresse maternelle dont j'étais entourée eut à cette époque une conséquence inattendue et extrêmement heureuse. Lorsque les affaires allaient bien et que la vente de quelques bijoux de famille permettait à ma mère d'envisager un mois de relative sécurité matérielle, son premier soin était d'aller chez le coiffeur. Elle allait ensuite écouter l'orchestre Zigane à la terrasse de l'hôtel Royal et engageait une femme de ménage chargée d'exécuter dans l'appartement divers travaux de propreté. Ma mère a toujours eu horreur de laver le plancher, et lorsqu'une fois en son absence j'essayais de nettoyer le parquet moi-même, et qu'elle me surprit à quatre pattes un torchon à la main, ses lèvres se mirent à grimacer, les larmes coulèrent sur ses joues, et je dus passer une heure à la consoler et à lui expliquer que dans un pays démocratique, ces petits travaux ménagers étaient considérés comme parfaitement honorables et qu'on pouvait s'y livrer sans déchoir. Mariette était une fille au bas-ventre bien ancré dans un bassin généreux, aux grands yeux malins, aux jambes fermes et solides, et dotée d'un derrière sensationnel que je voyais constamment en classe au lieu et à la place de la figure de mon professeur de mathématiques. Cette vision fascinante était la très simple raison pour laquelle je fixais la physionomie de mon maître avec une si complète concentration. La bouche ouverte, je ne la quittais pas des yeux pendant toute la durée de son cours, n'écoutant bien entendu pas un mot de ce qu'il disait. Et lorsque le bon maître nous tournait le dos et se mettait à tracer des signes algébriques sur le tableau, je transférais avec effort mon regard halluciné sur celui-ci, et je voyais aussitôt l'objet de mes rêves se dessiner sur le fond noir. Le noir a toujours eu pour moi depuis l'effet le plus heureux. Lorsque le professeur, flatté par mon attention, fasciné, me posait parfois une question, je m'ébrouais, je roulais des yeux ahuris, j'adressais au postérieur de Mariette un regard de doux reproche, et seule la voix vexée de Monsieur Valu me forçait enfin à revenir sur terre. « Je ne comprends pas !» s'exclamait le maître. « De tous mes élèves, vous paraissez le plus attentif, et on dirait même parfois que vous êtes littéralement suspendu à mes lèvres. Et pourtant, vous êtes dans la lune. » C'était exact. Il m'était cependant impossible d'expliquer à cet excellent homme ce que je voyais au lieu et à la place de sa figure avec une telle perfection. Bref, Mariette prenait dans ma vie une importance grandissante. Cela commençait au réveil et durait plus ou moins toute la journée. Lorsque cette déesse méditerranéenne apparaissait à l'horizon, mon cœur partait au galop à sa rencontre et je demeurais sans bouger sur mon lit, terriblement encombré. Je finis par me rendre compte que Mariette m'observait également avec une certaine curiosité. Elle se tournait parfois vers moi, mettait les mains sur ses hanches, me fixait avec un sourire un peu rêveur, soupirait, hochait la tête et disait « Ça fait rien. Vous pouvez dire que votre mère, elle vous aime vraiment. Elle parle que de vous quand vous n'êtes pas là, et toutes ces belles aventures qui vous attendent, et toutes les jolies dames qui vont vous aimer. » Et patati, et patata, ça finit par me faire de l'effet. Je me sentis assez contrariée. Ma mère était la dernière chose à laquelle j'étais disposée à penser à ce moment-là. Étendue en travers du lit dans une position très inconfortable, les genoux pliés, les pieds sur la couverture, la tête contre le mur, je n'osais pas bouger. Elle me parle de vous comme si vous étiez un prince charmant, quoi. Mon Romain par-ci, mon Romain par-là. Je sais bien que c'est seulement parce que vous êtes son fils. Mais à la fin, je me sens toute drôle. La voix de Mariette avait sur moi un effet extraordinaire. Ce n'était pas une voix comme une autre. D'abord, elle ne paraissait pas venir de la gorge. Je ne sais pas du tout d'où elle venait. Et elle n'allait pas non plus là où les voix vont en général. Elle n'allait pas à mes oreilles, en tout cas. C'était très curieux. C'est même énervant. On se demande ce que vous avez de spécial. Elle attendit un moment, puis soupira et se remit à frotter le parquet. J'étais complètement paralysée, transformé des pieds à la tête en un tronc pétrifié. Nous ne parlâmes plus, ni l'un ni l'autre. Parfois, Mariette tournait la tête dans ma direction, soupirait et se remettait à frotter le parquet. Je regardais cet affreux gaspillage, le cœur déchiré. Je savais bien qu'il fallait faire quelque chose, mais je me sentais littéralement clouée sur place. Mariette finit son travail et s'en alla. Je la vis partir avec la sensation qu'une livre de ma chair venait de s'arracher de mes flancs et de me quitter pour toujours.